Question de genre, deuxième chapitre, les transsexuels. Trans comme transformation, trans comme transition, trans comme transgression aussi. Le parcours effectué par les 5 à 15 000 transsexuels français, à distinguer des travestis et des transgenres, n'est pas de tout repos. Mais n'y voir que de la souffrance pourrait revenir à suivre sans distance les critères de l'Organisation mondiale de la santé lorsqu'elle classe ce trouble parmi les maladies mentales pour en faire une pathologie dont il faudrait seulement guérir les symptômes. Néanmoins, la discordance entre le sexe et le genre peut créer nombre de failles et de difficultés que la seule opération médicale ne règle pas définitivement. À la formule de Simone de Beauvoir, selon laquelle on ne naît pas femme, on le devient, les trans font écho en proclamant que la biologie n'est pas un destin. Mais du destin que l'on subit à la destinée que l'on s'approprie, l'écart est ténu et les contraintes, biologiques ou sociales, ne se laissent pas balayer d'un revers de main. Le temps, voilà tout juste un demi-siècle, où un avocat général affirmait que le chirurgien qui se permettrait en France d'opérer un transsexuel serait passible de la réclusion à perpétuité pour crime de castration, semble certes révolu. Pourtant, les trois quarts des transsexuels se font encore opérer à l'étranger, souvent dans des conditions dangereuses, et il a fallu attendre 1992 et une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour que les transsexuels aient le droit de changer d'état civil. Le trajet médical, social, juridique du transsexualisme est donc long. Avant d'entreprendre un parcours associant prise d'hormones et intervention chirurgicale, il est en effet indispensable d'avoir des entretiens réguliers et prolongés pendant au moins 2 ans avec un psychiatre qui donnera le feu vert au chirurgien pour l'opération. Ces chirurgiens, comme d'ailleurs les psychiatres, font partie d'un protocole chargé de traiter spécifiquement les transsexuels qui réclament, eux, la liberté de choisir leur médecin dans une nouvelle étape d'une vieille guerre que se livrent psy et trans depuis que, dans les années 80, ces derniers ont commencé à se penser et à se constituer en minorité sociale. Quelles sont alors les manifestations du refus d'une destinée biologique? Comment s'exprime ce qu'on appelle le syndrome de Benjamin? Quelles sont les étapes sexuelles, sociales, administratives d'un tel changement d'identité? Et sera-t-il un jour possible de changer d'état civil sans se faire opérer? Piste de réponse ce mercredi dans ce documentaire signé Morgane Duliège et Nathalie Ayari-Battus.
S'il vous plaît, acteur, j'aimerais bien obtenir le silence, merci. Je vais donner la parole à Pascal Oubi.
Nous allons appeler à une minute de silence. Milena est morte assassinée dans les rues de Marseille où elle travaillait. 47 coups de couteau, les seins coupés ou ciseaux et son sexe dans la bouche. C'est comme ça qu'on l'a retrouvée dans la rue où elle travaillait. Ce crime atroce n'est pas le seul, malheureusement, dans l'année. Il y en a d'autres aussi. Et comme tous les autres,
Existrans, marche trans du 1er octobre dernier.
Il est passé dans le silence. Et l'indifférence. Et j'entends Camille qui parle de Carole qui a été assassinée hier au bois de Boulogne. Donc, ici, dans notre pays, en 2005, des personnes meurent assassinées parce qu'elles portent des vêtements qu'il ne faudrait pas, parce que physiquement, elles ne ressemblent pas au sexe de naissance, parce qu'elles sont différentes. Nous nous battrons jusqu'au bout parce que ce crime atroce doit cesser. Et enfin, pour qu'il y ait une justice égale pour toutes les personnes, pour que la transphobie cesse, la haute autorité contre les discriminations a exclu la transphobie de son répertoire. Et c'est un encouragement indirect pour ce genre de crime. Il faut que ça cesse et nous allons marcher en mémoire des personnes assassinées aujourd'hui. Merci de votre soutien. J'appelle à une minute de silence en mémoire de ces personnes assassinées contre tous les crimes transphobes, contre l'agression et contre le sida qui est le mot d'ordre de la marche d'aujourd'hui.
S'il vous plaît, messieurs, dames, je vous demanderai de respecter une minute de silence.
Cornelia, présidente de l'association Support Transgenre Strasbourg, qui se réunit tous les mois dans un restaurant turc de la ville.
Je crois qu'on n'est pas, des machines programmées, on est des êtres humains. Il y a des tas de petits facteurs, sans doute, qui font qu'on est ci, qu'on est ça. Mais c'est tout à fait normal d'être transgenre. On prend la première, c'est Jeanne d'Arc. Bon, elle a été récupérée par des organisations qu'on ne nommera pas. Enfin, c'est quand même très drôle quand on y réfléchit de voir quelqu'un qui s'habille en homme à un tel point qu'elle préfère être brûlée vive à la fin parce qu'elle a remis ses habits d'homme. Alors, l'histoire de dire c'est pour pas être violée, toute femme sait que c'est pas un pantalon qu'arrête un violeur, donc ça tient pas la route. C'est clair qu'il s'agit d'un cas de transidentité. Enfin, je veux dire, quand on prend son personnage, c'est qui dirige des armées, qui a un comportement masculin, qui. On est complètement. Il y a d'autres personnages dans l'histoire. Simplement, à l'époque, il n'y avait évidemment pas de diagnostic, il n'y avait évidemment pas de processus hormonal et tout. Je veux dire, la transidentité, le fait de ne pas se sentir bien dans son genre biologique, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps. Donc, je crois qu'on n'a pas à se poser plus de questions de pourquoi on est gay, pourquoi on est lesbienne, pourquoi on est transsexuel, pourquoi on est croyant, qu'on n'est pas croyant. Il y a des facteurs mystérieux, éducatifs, machin, etc. Enfin, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Ce qui est important, je crois, c'est tout simplement d'être bien avec les autres. Je crois que la plupart des gens s'en fichent qu'on soit transsexuel finalement ou transgenre. Ils s'en moquent. Je crois que c'est uniquement des gens de pouvoir. Ça les dérange pour les papiers. Ils ont besoin de coder les gens à 1-2 numéro de sécu. Ils ont une pensée binaire. Ils pensent 1-2. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ils sortent pas du numéro de sécu. Il y a 1 et il y a 2. Voilà, leur monde, il s'arrête à ça. Moi, 1 et 2, je connais, enfin, ou 0 et 1, je connais juste les ordinateurs qui sont comme ça. Les êtres humains, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Voilà.
C'est quoi qui est écrit sur la pancarte hein?
Pardon?
C'est quoi qui est écrit sur la pancarte?
Pénis ou pas, le genre est ailleurs. C'est une pancarte des Panthères Roses.
C'est quoi les Panthères Roses?
C'est un groupe activiste. Donc Panthères Roses, Gwyn est pédé à l'offensive. Et aujourd'hui, c'est une manifestation donc, pour les droits des transsexuels, pour la diversité, qui souligne en fait toutes les discriminations et les oppressions dont sont victimes les transsexuels et tous les gens qui sont dans des chemins de vie transgenres d'une façon plus générale. Alors moi je suis pas dans un chemin de vie trans, donc peut-être ma parole n'est pas légitime pour ça, mais ici vous aurez toute facilité à trouver des gens qui pourront vous répondre. Par contre je suis sensible en fait aux discriminations et aux oppressions vraiment scandaleuses dont sont victimes les trans, qui sont effectivement pas considérés comme des citoyens en tant que tels, pas capables d'autonomie, qui sont psychiatrisés à outrance, c'est-à-dire qu'on ne leur reconnaît pas le droit à leur propre parole. Des institutions comme la psychiatrie en particulier décrète que c'est de la pathologie. Il n'y a pas de questionnement en fait sur pourquoi on cornaque en fait une population donc transsexuelle dans un lieu social qui est le pathologique. Et c'est le propos aujourd'hui, c'est de questionner ça en fait. Voilà.
Il faut aussi casser cette image de la trans malheureuse. C'est la société, mais parle pas des citoyens. Je pense que c'est vraiment les institutions qui leur compliquent la vie, nous compliquent la vie. C'est l'État transphobe. Et bon sang, on paye des impôts. Je suis désolé, là, j'ai payé 3000 euros d'impôts l'an dernier. Donc je gagne ma vie. Oui, j'ai gagné correctement ma vie. Mais c'est pour ça que je peux me payer une opération à l'étranger et pas être mutilé en France. Là aussi, il y a une injustice sociale. Les copines qui n'ont pas de boulot, les copines qui ont des SMIC, comment elles font pour être opérées? Ben, elles sont mutilées en France. Et ça, c'est gravissime. C'est, à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'on ne rembourse pas des opérations qui sont le même coût ou deux ou trois fois moins cher à l'étranger et beaucoup mieux fait, alors qu'on va payer en France 15 ou 20, 18 ou 20 000 euros avec notre argent pour des opérations ratées qui vont souvent amener des gens en psychiatrie pendant des années. Là, ils auront des raisons d'être en psychiatrie ou des régions qui vont être au suicide ou des gens, ça c'est pas grave. Transsuicidés, finalement, ils ont l'habitude et finalement, ça déblaye le terrain. Je crois qu'à un moment donné, les trans sont plus en souffrance, mais sont en colère. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a le droit, comme tous les autres, citoyens, à l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Et à un moment donné, il est temps que ça s'impose. Et on parle pour nous, mais je crois qu'on est aussi solidaire des autres à qui qu'on discrimine. Moi, ça me révulse quand dans mon pays, on discrimine quelqu'un. Donc je n'accepte plus d'être discriminé. Voilà, et on est en colère. Et de bonne humeur.
Bonjour Johanna.
Bonjour Morgane, rentre.
Vous allez bien?
Ouais.
C'est votre chez vous?
Oui. Oui.
C'est à merci. Votre image?
Ouais, oui, un peu, oui, tout à fait. Un peu d'Orient.
Beaucoup de livres.
Beaucoup de livres, il y en a encore plus là-bas. De la couleur, des ordinateurs, des guitares.
Des dessins.
Des dessins.
Qui représente quoi?
Ça, c'est des moteurs. C'est une personne qui m'est très chère qui a fait ces dessins. Ça a quelque chose d'organique.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, tout à fait.
On dirait presque un cœur avec toutes les artères et...
La première fois que j'ai vu ça, j'ai pensé à Giger, en fait. Le type qui a fait Alien, surtout cela.
On va discuter là-haut ?
On va discuter là-haut, ouais.
Je suis... Ah, le petit escalier qui mène à la petite chambre. Et voilà, c'est votre petit espace.
Oui, c'est tout un circuit pour passer, mais...
Mais ça vous plaît, hein ?
Ouais.
De toute façon, pas de ligne droite, hein ?
Pas de ligne droite. Ah, ça, j'aime. Et puis, pouvoir être n'importe comment, tu vois. Pouvoir avoir les jambes dans le vide à un moment.
Regardez les gens d'en haut.
Regardez les gens d'en haut. Regardez les gens en haut, d'en bas.
Oui, ça ressemble à un petit cocon quand même. Ouais, hein. Besoin de se protéger.
Ouais. Bah ça, c'est le premier truc, c'était je me fais mon coin, où je peux me poser, où je peux respirer, où je peux me reconstruire. C'était ça, quoi. Et puis j'arrive bien, je m'en sors bien, j'aime bien être là. Disons que c'est ma world maison, tu vois, il y a un peu... C'est Pantin entre Benares et Sawera et puis Paname aussi. C'est vrai que le soir, tu vois, j'aime bien, quand je me couche, là, me faire un café, éteindre les lumières, avoir mes bougies, fumer une clope, écouter de la musique et commencer, je suis assez souvent seul. C'est zen, c'est musique, pénombre et puis ouais, puis les pensées qui vagabondent aussi, quoi. Parce que puis les pensées qui vont vers l'avenir, parce qu'il y a un avenir. Bah oui. Si tu veux, pendant un temps, j'étais parti sur, je me morfondais sur le passé, etc.
Là, je
suis en train de voir l'avenir et c'est à ça que je pense. Puis je suis optimiste, je suis contente.
Bonjour Rochelle.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
Vous représentez l'association du syndrome de Benjamin, c'est ça ?
Absolument, j'en suis la vice-présidente pour l'instant.
Et cette manifestation aujourd'hui, elle est dans quel cadre ?
Elle est dans le cadre de la demande du respect de nos droits à être des citoyens et des citoyennes comme les autres. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes considérés comme des malades mentaux. Nous en sommes en fait au stade où en étaient les homosexuels il y a 30 ans. Et donc, comme l'homosexualité a été retirée du listing du DSM-4 qui liste les maladies mentales, en revanche, la transsexualité y est toujours. Donc nous sommes considérés comme des malades mentaux. Donc nous demandons impressément d'être dépsychiatrisés.
C'est quoi être trans aujourd'hui, Rochelle ?
Alors vous avez combien de temps là ? Parce qu'en fait c'est très très flou. Être trans, ce serait, pour résumer de manière simpliste, être dans un corps et avoir envie d'être dans un autre corps. Avoir en fait le psychisme qui ne correspond pas au physique. Mais en fait, on est obligé de se définir comme un homme ou une femme, et je trouve ça simpliste. Moi, je me sens être à la fois un peu des deux, à la fois les deux, et ni l'un ni l'autre. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors effectivement, quand je suis née, on a dit que j'étais un petit garçon. Normalement, en grandissant, j'aurais dû devenir un homme, mais je n'ai pas eu le temps de devenir un homme. Donc oui, j'ai été un garçon, mais en même temps, je n'ai pas eu la possibilité de devenir une femme. Et je pense, après une très longue réflexion, que quoi qu'il en soit et quoi que je subisse, je ne serai jamais une femme. J'en serais très proche, mais je ne serais en tout cas jamais la femme que j'aurais été si j'avais été une petite fille en naissant. Alors tu voyais comme tout ça est compliqué.
Vous n'avez pas un parcours exactement comme tous les autres, un parcours banal. Johanna, une femme atypique, c'est pas mal comme description.
Oh, j'étais plus atypique que maintenant. Hein. Non, pas atypique. Disons que je suis né au départ dans la peau d'un petit garçon. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire croire à ma mère quand je suis né. On lui a dit « It's a boy ». La pauvre. Et puis ça s'est compliqué pour elle quand il a fait les judices. « Maman, ton fils est Gwyn ».
Comment ça a commencé ? À quel moment vous avez senti que vous n'étiez pas dans le bon corps ?
J'avais... Bon, faut dire que je suis une vieille dame, que je vais avoir 56 ans bientôt. Donc 6 ans, c'était en 55. Je me rendais compte que j'étais pas un garçon, mais j'étais incapable de le décrire matériellement. C'est-à-dire que je savais pas déjà ce qui se passait entre les jambes. Donc j'avais trouvé une solution, je vivais ma journée. Puis le soir, dans mon lit, je refaisais ma journée, mais en tant que petite fille, tout simplement. Mais, ouais. mais rien ne changeait, si tu veux. Simplement, c'est dans ma tête que les choses se positionnaient autrement. C'est après que j'ai pu commencer à mettre des mots sur les choses. Et encore des mots, pas tout de suite, parce que le terme de transsexualisme, on savait pas ce que c'était. J'étais en plus dans un milieu assez bourgeois, assez conventionnel. Donc il y avait des choses dont on ne parlait pas. Je sais que l'épicier, le marchand de fruits et légumes était avec un monsieur. Donc ma grand-mère en parlait, mais c'était quelque chose qui était complètement étranger. Donc je pensais pas qu'on pouvait avoir une sexualité différente ou une identité différente de celle dans laquelle on pouvait être né. Donc j'étais mal dans mes tongs, pas à ma place, mais je pouvais pas mettre un mot dessus. C'est après, bon, j'ai commencé. Moi, j'étais un peu niaise par rapport à tout ça. Donc j'ai appris effectivement à ce moment-là que les garçons et les filles n'avaient pas la même chose entre les jambes. Et j'étais surprise, d'autant que c'était assez compliqué parce que circulait un magazine qui s'appelait Les Folies de Paris et d'Hollywood. Pas connu ce truc-là. Alors, t'avais des filles à poil, et puis, à la place du sexe, il n'y avait rien. C'était gommé, c'était complètement gommé. Donc, je disais, zut, c'est comme ça les filles, c'est comme ça que je veux être, rien. Et puis, finalement, après, j'ai eu un peu plus de billes, est arrivé...
Vous aviez des amis ?
Ouais. Des amis, bon, les garçons me détestaient parce que j'étais toujours avec les filles. Et puis est venu se rajouter à ça quelque chose d'extrêmement compliqué. C'était l'éveil de ma sexualité. Il se trouvait que j'aimais les filles. Donc déjà assimiler que j'étais pas dans le bon corps, mais qu'en plus j'avais, guillemets, parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça, une sexualité normale, c'est que j'aimais les filles, mais j'étais une fille. Donc déjà il a fallu que je me rende compte que j'étais une fille, parce qu'avant je partais du postulat, je suis pas un garçon. Hein? Donc déjà il a fallu que j'assimile mon identité réelle et qu'en plus je me dise ok, mais si je suis une fille, je suis atypique par rapport aux autres filles parce qu'en général elles aiment les mecs. Après je me suis rendu compte que j'étais une lesbienne comme les autres, point. Simplement que quand j'étais née, il y avait juste un petit problème qui s'est résolu pas mal d'années après à Bangkok.
Est-ce que vous ne voyez pas qu'une petite explication s'impose ? Une petite explication.
Alors la procédure pour changer de sexe en France est assez complexe.
Serge Bornstein, psychiatre expert.
Elle demande dans un premier temps un examen par un psychiatre qui juge de l'opportunité de l'affaire en quelque sorte, qui voit plusieurs fois le sujet et puis qui, si c'est avéré une propension vraiment constante concernant le sujet, va l'orienter vers un endocrinologue pour faire déjà une première évaluation tant du sexe génétique réel, chromosomique, que du fonctionnement de ces glandes génitales par des dosages hormonaux. Alors donc, en principe, en reprenant la terminologie du DSM-4 américain, qui est quelque chose d'assez précis, on exige un minimum de 2 ans de suivi, tant sur le plan psychologique qu'hormonologique, parfois chirurgical, pour orienter le sujet vers les étapes de sa transformation. Ce délai est nécessaire pour approfondir la détermination du sujet et savoir s'il n'est pas mu par quelques troubles psychologiques ou pire, quelques troubles mentaux qui seraient à l'origine de cette envie de changer de sexe.
Ces troubles-là, quels sont-ils ?
Alors, dans un certain nombre de cas, on est en présence d'un sujet plus ou moins psychopathe, ou bien schizophrène, ou bien délirant, et qui a l'idée saugrenue de changer de sexe, alors qu'il ne correspond pas à la définition stricte de Harry Benjamin, qui est celui qui a le mieux étudié ce problème.
Le syndrome de Benjamin.
Voilà, donc le syndrome de Benjamin est l'autre nom, mais qui est donné par les associations et qui n'est pas une terminologie spécifiquement médicale, mais ce syndrome de Benjamin est compris par tout le monde comme un authentique syndrome de transsexualisme.
I'm allergic to myself. I'm allergic to myself. I'm allergic to myself.
Je crois qu'en fait, le problème, c'est à quel moment on n'en peut plus de souffrir. Et à ce moment-là, on fait notre transition. Quand elle se passe bien, en 6 mois, on est rééquilibré. En 1 an, on est de bonne humeur. En 2 ans, on a la pêche. Voilà. C'est un bon test. Quoi. C'est fait un bon test.
Au bout de 4-5 ans, on fout la merde.
Ben, au bout de 4-5 ans, on commence à dire ça suffit, il faut que les choses bougent et on commence à s'organiser. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on a mis quand même depuis 3 ans le T de LGBT, lesbienne, gay, bi, et maintenant les trans. Et ben, ça va faire
bouger. Vous savez depuis combien de temps que vous êtes trans ? Vous savez depuis combien de temps que vous êtes trans ?
Depuis que j'ai 6 ans et demi, je sais que je me disais dans ma tête quelle tristesse de ne pas être une fille. Mais je savais pas que c'était des trans, bien sûr, donc il fallait le cacher sinon on allait me faire du mal, ça j'avais compris. Et puis, dès les années 85, j'ai commencé à comprendre que non, j'avais pas un problème de sexualité, j'ai aucun problème de sexualité, j'avais un problème. J'étais pas de la bonne identité, tout simplement. Et ça, mais je ne voulais pas l'admettre, parce que je me disais, si je le dis, on va me tuer, quoi. On va socialement me virer de mon boulot, on va me retirer ma fille, j'avais la garde de ma fille à l'époque. Et donc, j'ai dit non, je ne suis pas trans. Et j'ai fait la dénégation jusqu'à ce que je parte en dépression nerveuse. En fait, je suis parti en dépression nerveuse quand ma fille est devenue, elle avait 26 ans, elle en avait 24 à l'époque, ça y est, elle était casée. Et c'était la dernière raison de vivre que j'avais. Et à ce moment-là, je suis parti en dépression, je m'apprêtais à me suicider. Et puis d'un seul coup, je me dis, mais pourquoi finalement la vie est belle ? Et j'ai fait ma transition, voilà. Et je suis combative parce que je me dis, j'aurais pu me suicider à très peu de choses. J'aurais pas rencontré les filles d'STS, j'aurais pas lu leur site. De désespoir en voyant ce que c'était la maltraitance en France des trans, je me serais dit, autant en finir tout de suite, quoi. Et je sais le nombre de jeunes qui sont couchés sous la terre à cause de ça, et ça suffit. I'm allergic to
myself. Alors ensuite, lorsque le dossier est à peu près complet, et que les principaux acteurs, donc le psychiatre, quelquefois le psychologue, l'endocrinologue, le chirurgien ou urologue sont d'accord, on peut établir un protocole à trois médecins, laissant entendre que le sujet présente à l'évidence un syndrome de transsexualisme et qu'on peut envisager une réassignation en ce sens-là. Alors évidemment, avec, dans la proportion que j'indiquais, 85% d'hommes et 15% de femmes. Alors il y a quelques équipes spécialisées en France qui pratiquent donc cette instrumentalisation opération et qui sont l'objet de nombreuses demandes, soit dans le sens homme-femme ou dans le sens femme-homme.
Comment ça s'est passé ? Ben, J'ai eu du bol. Est arrivé le rock'n'roll, les cheveux longs, les petits jeans moulants, les allures androgynes. Disons que ça m'a permis aussi de passer un certain cap. Alors évidemment, tout le monde m'appelait mademoiselle, bon, mais ça me gênait pas. Puis ça m'a permis aussi de pas trop le dire à ma famille. Donc genre, ouais, je suis un peu branchouille, j'ai des petits jeans moulants, des petits shetland au-dessus du nombril, j'ai les cheveux longs, mais en fait, c'est juste parce que je suis branché, quoi, c'est tout. Bon, mais dans ma tête, il se passait autre chose. C'est vrai que j'étais passé à l'acte longtemps avant, en allant dans le placard de la pensionnaire américaine de chez ma grand-mère qui avait des pensionnaires US tous les ans. Puis en me construisant, en piquant ses fringues dans le placard, etc. Et en ayant sous les yeux l'image de ce que j'étais vraiment, quoi. Puisqu'en fait, la seule possibilité, c'était de le traduire en face d'un miroir par un look différent, quoi. Puisqu'en fait, ça, c'était uniquement au niveau du look. Où ça s'est compliqué après, c'est quand je me suis rendu compte que c'est pas d'un look dont j'avais besoin, mais que c'était réellement d'une identité, avec l'aspect social, avec le besoin d'être reconnu en tant que tel, de Zelle et pas TL. Puis bon, bah, ce qui s'est passé un jour, c'est que le copain de ma mère est rentré.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 18 ans. Il est rentré à l'improviste et là, j'étais dans la salle de bain en train de me maquiller, etc. Donc il m'a sauté dessus en me disant, mais quoi, t'es pédé, on réglera ça ce soir, j'ai pas le temps. Tu parles, j'ai pas attendu le soir, moi je me suis cassé.
Ah, vous êtes parti.
Ah oui, parce que je savais que j'allais en prendre plein la tronche. Je savais que j'allais en prendre plein la tronche, donc je suis parti direct autostop Haute-Savoie chez des copains qui avaient une boîte et j'ai passé la saison d'hiver en tant que DJ dans cette boîte. Et puis après je suis revenu, donc parce que la saison d'hiver était finie, plus une thune. Je me dis bon, comment je vais discuter de ça, comment je vais en parler. Ma mère me dit bon, on n'en parle pas, de toute façon t'as arrêté tes études. Je dis, ouais, c'est clair, là, la fac, là j'arrête. Donc bah écoute, tu vas partir au service militaire, hein. En gros, tu seras un homme, mon fils, on va te remettre dans les bonnes tongs. Tu parles.
Alors bon, bah, t'es discipliné, j'y vais. Me retrouver dans cet univers de Mac, c'était pas possible. C'était pas possible, je pétais les plombs. En réalité, je me suis retrouvé là-dedans la veille où je devais avoir mes galons de caporal, je me suis tiré, j'ai déserté. Je passe sur mes expériences politiques où j'étais parti dans le mouvement Mao plus extrémiste pour essayer, si tu veux, d'occulter tout ce qu'il pouvait y avoir d'individuel. Donc, dès que je m'occupais de moi, dès que je pensais à ça, c'était non. Ma loulou, t'as des préoccupations plus importantes, la révolution prolétarienne. Donc tu penses pas à ta petite personne, t'arrêtes l'individualisme, petit bourgeois, et tu penses au bonheur des masses. Je crois qu'on est un certain nombre à avoir fait ça, j'en ai croisé d'autres dans le milieu. Puis bon, c'était, je vais me remettre dans le droit chemin, ça tombait bien, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse. Alors je me suis dit, voilà, le moyen d'être ce que la société et le monde attendent de moi, un homme. Alors j'étais amoureuse, j'ai aimé.
Et là, puis, ouais. Vous viviez en tant que femme, enfin
c'était
non.
Pas possible. Ouais. Là, si tu veux, on était encore, on était en 70. Tu vois, c'était pas possible. Donc je mettais tout ça dans ma poche. Je bossais. On a eu un bébé qui maintenant a 35 ans. Mais alors régulièrement, je pétais les plombs, je partais 3-4 jours. Pour essayer de me retrouver, pour... En fait, je faisais sauter le couvercle de la cafetière. Je me suis fait une vie parallèle où j'ai commencé à rencontrer des gens comme moi, où j'ai traîné à Montparnasse, deux voies de proche, un petit bar aussi où je suis tombé, où j'allais. Là, j'étais Johanna, même si c'était l'enveloppe n'était pas parfaite, quoi. Je me faisais, disons, une petite niche où je pouvais être de temps en temps moi-même. En 70, tu vois, j'avais quelques jours par mois une vie parallèle où j'étais moi.
Vous en avez parlé à votre femme ?
7 ans après, quand c'était plus possible. Je me rendais compte que je pétais les plombs, je suis allé voir un toubib, j'ai dit voilà, j'en suis là, donc là, il y a un problème, mais vraiment réel. C'est pas un trip, c'est pas un fantasme. Je sais qui je suis maintenant et donc bah, la seule solution, c'est de prendre des hormones. Donc j'ai commencé en 78 à prendre des hormones. Ma morphologie s'est modifiée. Ma poitrine s'est développée, les poils se sont ralentis, ils sont pas tombés mais ils se sont ralentis. Et puis surtout c'est à l'intérieur que les choses se passent le plus. Morphologiquement il se passe des choses, mais c'est vrai qu'à l'intérieur ça fait descendre le taux de testostérone, donc l'agressivité, la masculinité s'estompe et autre chose apparaît. Disons que tu peux réagir quand t'es bourré de testo en donnant un coup de poing dans le mur. Et quand t'es bourré de stro, en pleurant, face au même événement. Simplement, socialement, c'était pas possible de le vivre encore, donc j'ai continué à bosser. En tant que garçon, alors, en bandant mes seins comme un garçon trans, en fait, si tu veux. Bon, puis en continuant à vivre. Mais simplement, je savais qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. Et disons que le soir, quand je sortais du boulot, je pouvais déjà un peu plus me lâcher, etc. Mais socialement, c'était encore... je pouvais pas dire à quelqu'un que j'étais trans sans me mettre à pleurer, quoi. C'était impossible. Parce que soyons clairs, j'avais honte.
C'est vrai.
J'avais honte. Si tu veux, j'avais pas encore conscience que je pouvais vivre pleinement. Je me sentais complètement marginalisé par le système... par la dualité du système, t'es un mec, t'es une nana, par ce temps-là, il n'y a pas de salut. Donc tant que t'es entre deux, tu pleures. Tu te retrouves, moi j'avais à l'époque de la barbe, tu te retrouves devant le miroir en train de te raser, t'es à poil, t'as tes seins et t'as ton kiki devant toi, et tu te dis, mais je suis un collage, je suis un monstre, tu vois. Et tu flippes, quoi, tu déprimes, donc voilà, quoi. Et puis, bon, bah, le temps a passé, et puis un jour j'ai dit... Y a basta, faut que je sois moi. Donc je décide d'arrêter de porter mon masque, je décide d'être moi-même, et Inch'Allah.
Il ne faut pas oublier qu'on est là dans l'humain le plus sensible, qui peut être le plus remodelable. Et je pense qu'il faut se hâter lentement, comme dit le poète, et être extrêmement circonspect et de bien peser les motivations, parce que, encore une fois, c'est une démarche qui va nous amener à un positionnement irréversible, Et bon, une fois la réassignation même réalisée, même le changement d'état civil, bon, ce sont des années d'épreuves qui vont attendre le sujet. Les conséquences chirurgicales ne sont pas toujours aussi simples que cela, ainsi que le vécu relationnel et affectif avec l'entourage. Enfin, on est dans une zone de problématique constante, et c'est toujours la prudence, la circonspection qui doit prévaloir, car ce sont des gens extrêmement fragiles et affectés, susceptibles de décompensations anxio-dépressives. Il faut vraiment les aborder en toute sérénité et tout faire pour que ce soit un long travail de maturation qui les amène à prendre les décisions irréversibles définitives.
Alors justement, cette période, à quel moment vous vous êtes dit « je vais passer le cap » parce que toutes les transsexuelles ne choisissent pas de se faire opérer.
Moi, je me suis toujours dit, ça faisait partie de mon parcours. Simplement, j'avais un bête problème matériel. Donc j'attendais d'avoir vendu mon appartement pour avoir des sous et pour pouvoir avoir les 5000 dollars que me coûtait cette opération, plus le voyage, etc.
Vous avez pensé le faire en France ?
Non.
Pourquoi ?
Non, j'ai pas pensé à le faire en France. Parce que j'ai vu des résultats catastrophiques en France. J'ai vu des gens se faire mutiler en France. J'ai vu des gens à moitié perdre leurs jambes parce qu'on avait mal mis leurs jambes dans les étriers et la circulation était coupée pendant toute l'opération. Et cette personne maintenant marche avec une canne. J'ai vu des gens avec le vagin en escalier. J'ai vu des gens à qui on perçait la cloison entre le vagin et l'anus, ce qui fait qu'elles avaient des infections à répétition. J'ai vu des ratages en France. J'ai vu des chirurgiens déléguer leur opération à leurs internes, à des débutants qui n'avaient jamais pratiqué. Je suis désolé, en France, on fait une boucherie. Et il faut le dire, il y a des gens qui ont été massacrés en France. Alors, on a parlé de ce qui pouvait se passer il y a quelques années au Maroc, à Casa, où les gens crevaient effectivement sur la table d'opération. Mais en France, on n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Et peut-être que la France va changer, mais actuellement, c'est vraiment un massacre. Et c'est pour ça que j'ai toujours encouragé les gens à aller en Belgique, maintenant en Thaïlande, parce qu'on fait des choses très bien, mais surtout pas en France. Les transsexuels en France n'ont pas le choix de leur médecin. Il faut qu'ils suivent un protocole complètement réactionnaire. Il y a une période de suivi, une période qu'on appelle le real life test, où on doit vivre dans la peau de la personne du sexe de destination, mais sans avoir les papiers, puisque jusqu'à aujourd'hui, il faut être opéré pour une femme pour avoir ses papiers. Donc quand on a un boulot, ça va. Quand on n'en est pas, allez essayer de trouver du boulot. Quand vous êtes les pieds à la tête d'une femme, hormis un kiki que personne ne voit et dont tout le monde se fout, et dont le numéro de sécu commence par un 1 et qui s'appelle Gérard ou Nicolas. Faut arrêter, quoi. Donc, si on veut que les gens puissent vivre ça, il faut accorder le changement d'état civil au niveau du traitement hormonal pour que les gens, et avant l'opération, pour que les gens puissent acquérir ou garder une socialisation. Parce qu'il y a des boulots qui ne sont pas forcément aussi tolérants que le mien. Et il y a des gens qui peuvent se faire virer ou martyriser à cause de ce changement de sexe. D'autre part, il y a une période... Là, je balance tout. Hein. Il y a une période sur le plan hormonal. Il y a aussi un problème, c'est-à-dire que les médecins accordent d'abord 6 mois d'anti-androgène avant de passer à la testostérone, pour voir si les gens tiennent le coup. Mais les anti-androgènes, ça veut dire priver la personne d'hormones totalement. C'est-à-dire qu'on met la personne artificiellement en ménopause. Bouffée de chaleur, risque d'ostéoporose, dépression nerveuse, etc. Puisqu'il y a un déficit hormonal, donc déficit aussi psychologique. C'est pour ça que, bien souvent, on passe par un moyen parallèle, et en même temps que l'androcure, en même temps que les anti-androgènes, on se fait prescrire des oestrogènes pour établir cette balance. D'accord. Donc, on risque de se désocialiser, on se retrouve en ménopause, et tout ça pendant 6 mois. C'est un peu le calvaire pour les transsexuels en France. D'accord ? Le processus dans lequel on est actuellement en France se fait au détriment de l'intérêt de la personne concernée pour respecter des protocoles qui sont complètement obsolètes et complètement ringards. En se basant sur des psys pour qui les transsexuels sont encore des malades. Comme les homo pouvait l'être avant, à l'époque du fléau social.
Il y a une idéologie qui sacralise le génital. Et cette idéologie est mise en place de telle façon qu'elle essaie de forcer les gens dans une norme théorique qui est absurde, qui tient en rien, une norme binaire complètement inventée de toutes pièces et qui sert uniquement à diviser pour mieux régner. Hein. C'est un outil de pouvoir qui sert à discriminer. Voilà.
Je dis tout ça pour 11 cm et 15 grammes.
Tant que ça.
Non, mais derrière la boutade, c'est ça. Enfin, je veux dire, on est dans une société où on est encore sur le pouvoir du pénis. En fait, la question que posent les transsexuels, c'est une question des rapports hommes-femmes. Si, finalement, quelqu'un qui est un garçon biologique, parce qu'on est parfaitement lucide, on sait très bien qu'on a des chromosomes masculins, voilà, on est biologiquement au départ un garçon. Simplement, on se sent autrement, et à un moment donné, on met en adéquation parce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre, et c'est comme ça qu'on peut vivre agréablement. Bon, à moins d'être masochiste, il n'y a pas de raison de ne pas faire sa transition. Et je crois que c'est ça la question qui est posée. C'est tout simplement qu'on touche au génital et on touche à l'égalité homme-femme. Et c'est pour ça que les psychiatres qualifient les trans femmes vers hommes comme juste des pervers sexuels. Donc c'est pas très grave, finalement. Alors que nous, on est des psychotiques graves, parce que quand on est biologiquement un garçon, qu'on a cette chance d'être un dominant, vouloir devenir une femme, faut vraiment être cinglé, voilà. Fondamentalement, c'est ça l'idéologie de la psychiatrie française. C'est, si c'est facile, et si c'est normal, et si c'est agréable pour un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes de devenir, alors qu'on est biologiquement un garçon ou une fille, quelque part de se sentir mieux dans l'identité féminine, eh bien ça prouve que finalement, c'est pas déshonorant d'être une femme. Eh bien, je suis désolé, moi qui suis pas une femme d'origine génétique, je considère que c'est pas déshonorant d'être une femme. Je considère qu'aujourd'hui un homme et une femme c'est égal et que le jour où on acceptera les trans, ça voudra dire qu'il y aura l'égalité totale homme-femme dans ce pays.
Quand vous parlez des tests que vous faites, quels sont-ils ?
Oui, alors ce sont des tests psychologiques standards. Bon, d'abord concernant le niveau intellectuel, parce que si le sujet n'a pas accès à un certain niveau de réflexion, si elle est trop primaire, trop infantile, donc il y a un warning qui se pose. Test d'affectivité pour voir son développement, sa réactivité générale, son empathie, sa stabilité émotionnelle, et puis des tests peut-être plus précis concernant son degré de masculinisation ou de féminisation, de voir un petit peu si son psychisme, ses orientations, ses choix sont en rapport ou pas avec son sexe d'origine. On voit le genre des jeux qu'ils ont pu faire quand ils étaient enfants, ensuite, un certain goût pour la violence ou pas, quelles sont les attirances sexuelles qu'ils ont eues jusqu'alors, comment s'habillent-ils, comment mangent-ils, comment sortent-ils, quels sont leurs loisirs, leurs distractions. On arrive à voir si le comportement du sujet est en adéquation ou non avec son sexe souhaité, voilà. Donc tout ça, ça nous donne une idée. Ensuite, il y a les tests plus particulièrement biologiques, examens de l'ADN, des chromosomes, et puis des hormones mâles ou femelles. Ça, c'est important. Examen de l'appareil génital d'origine, parce qu'il y a parfois des ambiguïtés sexuelles de naissance. Tout ça, c'est un préalable incontournable. C'est approximatif, mais enfin, on a des repérages qui montrent si le sujet est tout à fait ambigu par rapport à son sexe d'origine, par rapport à son sexe souhaité, et donc on a des lignes de force, des tendances qui vont nous montrer si c'est pas une simple fantaisie ou si déjà il y a une transformation dans sa vie sociale et relationnelle qui attire l'attention.
Moi, j'ai choisi de me faire opérer et
ça m'a mis en conformité avec mon corps. Et maintenant, j'apprécie vraiment mon corps, alors j'en avais vraiment franchement horreur avant. Et maintenant, depuis que je suis opéré, donc ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans, moi, je suis vraiment en harmonie avec mon corps et tout va bien, quoi. Je peux de nouveau avoir une sexualité extrêmement satisfaisante, chose que je n'avais pas avant. Et c'est personnel, mais je n'ai qu'à me louer de cette opération qui a été faite en Thaïlande, donc bien. Et non pas en France.
Comment vous l'avez vécu au tout début?
Ça a été la découverte. Exemple, la première fois que j'ai mis un jean, je me suis senti à l'aise, quoi. Il n'y avait plus. J'étais moi-même. C'est assez difficile à dire, c'est très sensitif. Et je me sentais normal pour la première fois de ma vie. Et après, ça a été que. Donc, après les 6 mois de convalescence, j'ai découvert plein de choses. Et donc, une vraie sexualité, comme une sexualité qui me convenait.
C'est troublant au début, justement, de découvrir cette sexualité en tant que femme.
Disons qu'avant, on l'a à l'état de fantasme. Et ça devient physique, donc ça devient une réalité. Donc le fantasme disparaît, comme tout fantasme réalisé. Et là, on peut vraiment s'épanouir dans sa vie, quoi. C'est trop top. Enfin, pour moi. Mais bon, juste après l'opération, c'est quand même pas très, très esthétique. Donc, j'ai attendu les découvertes. Et c'est franchement, enfin, moi, j'ai franchement apprécié, quoi, toutes les étapes, les reconnexions nerveuses, avec la sensibilité qui revient partout, et tout, etc. Et enfin, se sentir comme on a toujours rêvé d'être.
Alors la Thaïlande, combien de temps vous êtes parti là-bas?
Je suis parti il y a un peu plus d'un mois là-bas. D'abord j'ai passé une semaine idyllique, semaine de vacances. Sauf l'avant-dernier jour, parce que là je flippais, mais grave, quoi. Là j'ai eu un truc, attends, je suis folle là. Je suis à l'autre bout du monde. Ok, je crois que ça va bien se passer, mais j'ai quand même la trouille. Et puis, est-ce que je vais encore ressentir quelque chose après? Est-ce que j'aurai encore du plaisir? J'ai flippé, mais j'ai flippé grave. Et puis, la veille, ça allait. Et puis, je suis rentré à l'hôpital le lundi. Je me suis réveillé quelques heures après en réclamant du Coca-Cola, en disant que j'avais envie de faire pipi, et tout le monde me disait, mais idiote, t'as une sonde, pisse. Et moi, je savais pas, je me suis réveillé donc le lendemain. Avec une jolie petite culotte en élastoplast et des tuyaux qui sortaient de partout. Je ressemblais beaucoup plus à une pompe à essence qu'à une fille, il y avait tellement de tuyaux. Et puis avec un petit sac sur la table de la cuisine. Et mon amie était là, ma copine était là, je lui dis c'est quoi ce truc? Elle regarde. Elle me dit je sais pas, on dirait une soupe chinoise. Il y a des morceaux, je lui dis non c'est pas possible, c'est pas ça. En fait si c'était vraiment ça. Donc j'ai appelé l'infirmière, j'ai dit you put it in trash can now, I don't want to see it. Vous mettez ça tout de suite à la poubelle, je veux pas le voir. Bon, c'était les restes. Comme ils reçoivent des gens de confessions différentes, on peut vouloir être enterré ou incinéré avec l'intégrité de son corps physique. Donc, il m'avait donné d'origine. Ouais. Donc, j'ai jeté cette chose que je ne voulais plus voir. Et puis, 5 jours après, donc le samedi, ils m'ont retiré mes pansements.
Comment vous êtes senti quand vous avez vu votre sexe féminin pour la première fois?
Oula, je suis arrivé dans la salle de bain, il y avait un grand miroir. J'ai complètement scotché, quoi. J'étais toute nue, d'abord ça allait vachement bien parce que j'avais maigri. Et puis j'avais cette chose qui était encore bleue, tuméfiée, avec du sang coagulé parce qu'il venait de me retirer les pansements. Et pourtant c'était déjà moi. Et je me souviens que je suis arrivé dans la glace, j'ai dit, oh, ça le fait là. Après je me suis assise pour faire pipi. Et je m'attendais en plus à ce que ça me brûle, donc j'avais déjà les larmes qui se préparaient. Et en fait c'est venu tout seul. Après, j'ai pris une douche et c'était le bonheur, quoi. C'était le bonheur, c'était moi. J'étais vraiment pour la première fois en face de moi-même. Et après, ça a été, en revenant en France, le début des démarches pour le changement d'état civil que j'ai obtenu.
C'était comme une renaissance?
Non, c'était une réalisation, pas une renaissance, mais la réalisation de la personne que j'étais.
disons que je l'étais déjà, et que ça c'était la cerise sur le gâteau, et que je pouvais enfin être moi-même complètement. Et puis c'était la découverte de tas de choses, c'était la découverte de ma réelle sexualité aussi, c'était la découverte de mon corps. Il a fallu le discipliner, il a fallu...
Pourquoi ?
Bah parce que j'avais vécu pendant presque 50 ans avec autre chose, et j'avais peur de plus être sensible, et je me suis rendu compte au contraire au début que j'avais une hypersensibilité. Donc il a fallu discipliner ce corps que je connaissais pas, apprendre à retrouver mon plaisir. Ma partenaire aussi m'a énormément aidé là-dessus, apprendre des choses toutes simples, apprendre à faire pipi sans jouer l'hélicoptère et en mettre partout, apprendre à discipliner mon clitoris, à réapprendre à faire l'amour avec ce corps-là.
Pour moi, la première étape, voilà. C'est peut-être plus simple comme ça. La première étape, ça a été de me déculpabiliser par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des sujets tabous qu'on n'a jamais abordé, tu sais peut-être comment ça se passe dans une famille, hein. Et les sujets tabous comme l'argent, faut pas parler d'argent, parce que l'argent, je sais pas. Ou la religion c'est encore pire, hein. Etc. Le sexe, n'en parlons pas, parce que dans les familles bien élevées, etc. Alors, voilà, etc. Bon. Alors, en matière de transsexualisme, transsexualité ou de transidentité, je ne connaissais d'ailleurs pas ces termes-là, hein, faut l'avouer. On en était loin, quoi. Et disons, à partir du moment où je suis arrivée à me déculpabiliser tout ça, ça a été, comment dirais-je, j'ai eu des ailes, voilà, tout simplement. On m'a donné des ailes et puis j'ai pu voler de mes propres ailes. Il n'y a pas de raison à ce que je puisse pas vivre ma vie de femme comme je l'entends et avec ce que j'ai aujourd'hui. Malgré tout, envers tout et contre tout. Puisque c'est ma destinée. Ma destinée, c'est pas de devenir une femme biologique, parce que je ne le serai jamais. Voilà, je sais plus qui disait d'ailleurs, on n'est pas femme, on ne naît pas femme, on devient femme. C'est autre chose.
Simone de Beauvoir.
Voilà, c'est Simone de Beauvoir. Merci pour elle. Le proche avenir, mais c'est pouvoir changer un jour mes papiers, tout simplement, et donc pouvoir vivre au quotidien sans trop de tracasseries. Voilà, donc mes papiers pour l'administratif. Je trouve que c'est important quand même, quelque part. Voilà. Et un jour, ça arrivera, je pense. Bon, je ne pourrais pas, malheureusement, prétendre aller jusqu'au bout, c'est-à-dire changer le chiffre 1 de la sécu par le chiffre 2, donc le remplacer par le chiffre 2, mais peu importe. Bon, encore une fois, quoi, je fais avec ce que j'ai. Alors, quand j'avais mes papiers, alors je fais un peu de l'inventaire de ce que j'ai. Là, je vois une carte, la carte d'identité, mais je préfère ne pas la montrer parce que je suis en cours de changement de prénom. Ou plutôt précisément de rajout de prénom, hein, parce que pour l'instant je ne vais pas prétendre un changement d'état civil. Les lois sont faites ainsi. Par contre.
Et quand vous voyez cette photo de vous.
Non. Surtout pas.
Vous n'aimez pas la voir?
Surtout pas, non. C'est dans ma vie antérieure, elle est pas mal. Hein. Tu veux la voir?
De vous en homme. Ah, ça change quand même. Hein.
Attends, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. C'est un vrai zombie, quoi. Donc ça, c'était dans ma vie antérieure. Hein.
C'était une autre vie.
C'était une autre vie. Je ne renie pas d'une certaine manière, hein, parce que je ne peux pas l'oublier. Alors, je ne peux pas l'oublier, mais c'est comme ça. C'est une vie, une deuxième vie aujourd'hui, en tout cas. C'est une renaissance. Alors, je continue un peu l'inventaire. Titulaire de. Alors, je suis titulaire, comme Estelle, de la carte Misa, mais par ailleurs. Le comte, c'est plutôt le garçon qui est titulaire. Ils font bien la distinction entre titulaire de la carte et titulaire du compte. Finalement, deux personnes en une, pourquoi pas. Il y a bien, on en est dans la région, trois personnes en une, pourquoi pas.
Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez vu votre prénom de femme sur vos papiers administratifs?
C'est impressionnant. Ah oui, mais ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup émue, parce que on pourrait presque parler de reconnaissance en la matière. Et dire que finalement, au fond, il n'y a pas de raison qu'un jour je ne sois pas reconnue à part entière en tant qu'Estelle. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est comme ça.
Trans, nous sommes le fléau social. Trans, nous sommes le fléau social. Trans, nous sommes le fléau social.
pas de papier, on n'a pas le droit de choisir son médecin. Les conséquences, c'est le travail. On ne peut pas travailler, on ne peut pas trouver un logement. Voilà, on ne peut pas vivre sa vie quotidienne tranquillement, dans le respect de la vie privée. On est obligé de révéler sa sexualité à n'importe quel agent administratif, n'importe quel, même au Monoprix, hein, quand on fait un chèque. Il y a un décalage entre un monsieur sur les papiers et madame physiquement. Donc voilà, on voudrait avoir le choix à la vie privée, c'est-à-dire on peut en parler si on en a envie de ce qu'on est, mais si on n'a pas envie d'en parler, il ne faut pas qu'on soit bloqué par un agent administratif qui nous... Voilà, des fois ça se passe bien, mais bon, des fois ça se passe... Souvent ça se passe pas bien, parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a des transphobes partout. Alors moi je ne suis pas prisonnière de rien du tout, je suis prisonnière avec des papiers qui ne correspondent pas à mon physique, c'est tout. Par contre, ce que vous appelez la contradiction entre le genre et le sexe, pour moi c'est une richesse et c'est ça que je revendique. Je suis les deux, mais par contre physiquement je ressemble à une femme, donc je devrais avoir des papiers pour circuler librement. Voilà.
Caroline Mécari, vous êtes avocate à la Cour. Comment procède-t-on dans le cadre d'un changement d'état civil quand on est une personne transsexuelle ?
La personne transsexuelle qui souhaite voir son état civil modifié pour correspondre en fait à sa nouvelle morphologie doit demander au tribunal de grande instance ce changement d'état civil ainsi que généralement le changement de prénom. Alors la façon de faire est assez simple. En fait, cette personne doit venir voir un avocat qui va rédiger une assignation qui va être délivrée au ministère public, au procureur de la République, si vous préférez, pour que le tribunal, ensuite, examine le dossier, c'est-à-dire s'assure que la personne a bien suivi le protocole médical, qu'elle a été opérée, donc qu'elle a été jusqu'au bout du processus de transformation. Et là, si le tribunal estime qu'il est suffisamment informé, il peut prononcer, dans le temps de la procédure, le changement d'état civil ainsi que le changement de prénom. Et en revanche, s'il estime qu'il n'est pas suffisamment informé, il va ordonner une expertise. Les experts rencontreront le demandeur, donc la personne transsexuelle. Généralement, le rapport est positif. Il sera remis au tribunal et au vu de ce rapport positif, le tribunal alors pourra prononcer ce changement d'état civil. Entre le moment où l'assignation est donc délivrée au procureur de la République et le moment où le tribunal rend sa décision, si on prend par exemple Paris, il faut compter 9 mois, si on prend les tribunaux de la périphérie, à peu près la même durée. Maintenant, s'il y a une expertise, il est clair que cela va allonger la procédure et là, il faut compter 6 mois supplémentaires.
Cette possibilité de changer d'état civil existe depuis quand ?
On peut dire globalement qu'elle existe en France concrètement et qu'elle est acceptée par les juridictions depuis 1991. C'est donc finalement très récent. Et on peut encore rencontrer certaines résistances chez certains magistrats qui n'y sont pas très favorables. Mais globalement, on arrive à obtenir le changement d'état civil dans des délais raisonnables. Le changement d'état civil renvoie à un principe de droit qui est le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, de l'indisponibilité du corps. Et donc les magistrats, qui en quelque sorte sont aussi gardiens de l'application de la loi, doivent être vigilants sur la question de savoir qui est un homme, qui est une femme. Et c'est vrai que globalement, c'est une question qui est tranchée à la naissance. C'est vrai que maintenant, depuis une quinzaine d'années, on admet qu'il puisse y avoir un changement, mais les magistrats veulent s'assurer que la personne est bien passée de l'état d'homme à l'état de femme ou de l'état de femme à l'état d'homme. Et donc, pour cela, les magistrats souhaitent avoir des garanties. Une des garanties, c'est d'abord le fait que la personne ait été jusqu'au bout du processus de transformation, pour dire les choses très clairement, qu'elle ait été opérée, qu'il s'agisse d'un homme au départ ou d'une femme au départ. Et l'opération étant un signe de cette volonté, de la manière dont les personnes transsexuelles disent vivre leurs sentiments. Et puis les magistrats ont aussi la possibilité de se faire aider par des experts. Et là, il faut dire que la situation n'est pas la même selon les tribunaux. Elle n'est pas la même d'ailleurs selon les chambres devant lesquelles on comparaît. Certaines juridictions se suffisent des éléments qui sont versés au débat. D'autres estiment qu'il faut encore une expertise, ce qui rallonge d'autant le temps de la procédure. Personnellement, je pense que l'expertise n'est pas nécessaire lorsque le processus a été validé, notamment par la sécurité sociale. Il existe des protocoles qui sont extrêmement déterminés et définis aujourd'hui en droit français. Parfois, on peut considérer qu'une expertise peut être nécessaire si l'opération a été faite à l'étranger, encore que je crois que ça se justifie de moins en moins.
Caroline Mécari, pourquoi est-ce si important pour les personnes transsexuelles de changer d'état civil ?
Je crois que c'est, d'une certaine manière, c'est assez simple. Je crois que ces personnes ont la conviction, et d'ailleurs généralement leur transformation morphologique en est un signe fort, d'appartenir au sexe, à l'autre sexe, du moins au sexe qui n'était pas le leur au départ. Et donc il est aussi important que ce changement soit validé par la société. Et donc le jugement qui va accepter la modification de l'état civil leur donne une nouvelle identité et la concrétise. Je crois que cela met en accord à la fois ce ressenti intérieur et le regard social qui peut être porté sur elle.
Vous diriez que vous êtes une femme transsexuelle ?
Je suis une femme. Je suis une femme qui a un passé transsexuel. Parce que pour moi, trans, c'est vrai qu'il y a polémique là-dessus, mais trans, pour moi, c'est un passage. Tu fais une transfusion, ça passe d'un corps à l'autre. Tu transvases, ça passe d'une bouteille à l'autre. T'es un transfuge, tu passes d'un pays à l'autre. T'es transsexuel, tu passes d'un sexe à l'autre. Tu as ton genre, à mon avis, à mon sens, le genre, c'est ce qui est ressenti. Donc j'ai toujours été de genre féminin. Ça, j'ai pas changé. J'ai eu un sexe masculin. Ça a changé. À partir du moment où j'ai fait ce passage d'un sexe vers l'autre, je suis plus transsexuel. Je l'ai été. Peut-être je suis trans, si tu veux, mais pas transsexuel. Trans pour avoir... Il faut bien se reconnaître quelque part, si tu veux. Comme je dirais, je suis de gauche. Tu vois. Mais c'est tout. À part ça, si tu veux, ça fait partie de mon passé. Ça fait partie des choses qui m'ont construite. Et puis voilà, quoi. Mais c'est, si tu veux, c'est pas plus sur ma carte de visite que mon opération de l'appendicite ou celle de la vésicule biliaire.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas en marge, vous. Vous n'êtes plus en marge. Ou si, peut-être
en marge
encore.
Socialement, non, je suis intégré socialement. Je suis en marge encore dans ma tête, oui, bien sûr, puis j'y serai toujours. J'ai envie qu'il n'y ait plus besoin d'avoir à s'intégrer. C'est ça, si tu veux, c'est le problème de l'intégration. Ce mot à toutes les sauces, intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système n'est pas assez ouvert pour qu'il y ait besoin d'une intégration. Ça devrait venir de soi. Donc, si tu veux, non, oui, je suis encore marginal. Je suis encore marginal tant que toute la page ne s'ouvrira pas à tout le monde et que la marge ne sera plus repoussée sur les côtés. Quand elle sera noyée dans la masse, etc., et qu'on ne se posera plus de questions. On ne se posera plus de questions sur qui est quoi, et qui fait quoi. À partir du moment où tu respectes les autres, à partir du moment où tu ne portes pas préjudice, à partir du moment où tout est librement consenti, il n'y a aucune raison de se retrouver en dehors. Mais tant que c'est comme ça, oui, quelque part, je suis un peu en dehors. Maintenant, je ne vais pas jouer non plus la petite marchande d'allumettes et dire que je suis Cosette et appeler Jean Valjean. Si tu veux, le monde, il est tel quel, j'en suis là. Je suis arrivé à être moi-même, et si tu veux, c'est peut-être... Je disais tout à l'heure, je suis une vieille dame, je ne sais pas combien de temps il me reste devant, mais ce qui me reste devant avec ce que je suis maintenant, ça balaye largement ce que j'ai pu être derrière. Donc tu as des cicatrices, mais c'est que des cicatrices. Puis c'est vrai qu'il y a cette phrase qui est... Il y a deux phrases que j'aime beaucoup. C'est la marge, c'est important, parce que c'est ce qui tient la page. Et puis l'autre phrase aussi, parce que tu avais des gens qui vont dire c'est des fêlés, c'est des tordus. C'était Michel Audiard qui disait heureux sur les fêlés parce qu'il laisse passer la lumière.
Merci infiniment à tous les intervenants. Vous pouvez réécouter cette émission par l'intermédiaire de notre site internet franceculture.com, tout attaché, tout minuscule, par le biais duquel vous pouvez également nous contacter et retrouver des références d'ouvrages et d'associations sur la thématique de ce mois de novembre. Mercredi prochain, nous continuons en effet ces questions de genre en nous intéressant cette fois-ci à l'homoparentalité. C'était un documentaire proposé par Morgane Duliège, attaché d'émission Avril Ventura, mixage Laure Young Lancret, réalisation Nathalie Ayari-Battus. Il est 16h ce mercredi, l'heure des enfants sur France Culture.